en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Et si Christophe Colomb, après avoir touché les côtes américaines, n'était pas rentré en Europe? Et si, au XVIe siècle, l'histoire du monde avait tourné dans l'autre sens? Et si c'était les Incas qui avaient traversé l'Atlantique et envahi l'Europe? Et si Atahualpa avait soumis l'empereur Charles Quint et avec lui ce continent miné par la faim, la guerre, les querelles religieuses? C'est le récit d'un renversement du monde, d'une autre mondialisation que nous livre aujourd'hui Laurent Binet à travers une intrigue romanesque, épique, érudite, un tantinet philosophique et surtout ludique. Le titre du livre s'écrit d'ailleurs comme un célèbre jeu vidéo, Civilisation avec un Z. Il est paru aux éditions Grasset et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Laurent Binet.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes un écrivain du « et si » ?
J'ai toujours été, depuis tout petit, en tout cas j'étais un lecteur de d'Uchronie. Déjà quand j'étais petit, quand je lisais mes comics, j'aimais bien les hypothèses, et si Jean Grey, le phénix, n'était pas morte, ce genre de choses. Et puis en grandissant, en tant que lecteur, j'ai toujours aimé les Uchronies de type « et si les nazis avaient gagné la guerre ». J'avais beaucoup aimé la série tirée du livre de Philippe K. Dick, « Le maître du haut château ». Donc voilà, j'ai toujours été attiré par ce genre en tant que lecteur. J'avais déjà flirté avec lors de mon dernier roman. Et si Roland Barthes n'était pas mort dans un accident, mais avait été assassiné, et
je m'étais la septième fonction du langage.
Et donc voilà, bon là j'ai sauté le pas et donc j'ai fait quelque chose de plus massif.
Mais alors vous connaissez la phrase célèbre d'Alexandre Dumas père, hein, on peut violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants. Vous vous signez à demain ?
Non, pas tout à fait, en fait, parce que, j'aime beaucoup Alexandre Dumas, évidemment, mais la démarche d'Alexandre Dumas consistait à s'introduire, s'insinuer dans les blancs de l'histoire, mais sans la changer. C'est-à-dire que, bon, l'épisode des Ferrets de la Reine dans les Trois Mousquetaires, c'est une anecdote réelle dans laquelle il introduit ses personnages fictifs, mais sans tout bouleverser. Et donc, il le fait de façon formidable, très ludique, très romanesque. Je me méfie à l'inverse de certaines fictions qui sont plus sournoises et qui jouent, dont la frontière entre réel et invention est pas très nette. Et je voudrais absolument pas qu'on prenne mon travail pour une tentative de falsification ou de réécriture.
Ah, pas du tout, parce que c'est très clair, hein, dès le
départ.
Alors
voilà, c'est ça. C'est-à-dire, l'avantage, c'est que quand un retournement à cette ampleur, je suis assez rassuré dans le fait que personne ne croira que les Incas, enfin, on serait au courant si les Indiens voilà. avaient envahi l'Europe, on aurait cette discussion en Quechua, je pense.
Voilà. Effectivement, il n'y a aucun doute là-dessus.
Mais alors, tout ça pour dire que je suis très, très, attentif à ça, j'aime que la fiction s'exhibe comme telle.
Alors, l'important dans une uchronie, c'est évidemment le point de départ. Hein. Vous auriez pu donc imaginer, effectivement, vous venez de le dire vous-même, la victoire des nazis. Vous auriez pu imaginer, je sais pas moi, Louis XVI qui mate les révolutionnaires français ou la colonisation de l'Europe par l'Afrique. Pourquoi est-ce que vous êtes tourné vers l'Amérique latine et singulièrement vers les Incas ?
Je pense que le moment Christophe Colomb, c'est un moment de bouleversement comme on n'en voit pas beaucoup quand même dans l'histoire. À l'échelle mondiale, les conséquences de ce geste sont incalculables. Et donc, je me suis dit, bon, alors les nazis qui ont gagné la guerre, ça a été quand même beaucoup fait. Je me suis dit que, voilà, quitte à faire une histoire contrefactuelle, autant que ce soit vraiment un 180 degrés, ça c'est l'explication, comment dire, théorique. Plus conjoncturellement, la vérité, c'est que j'avais été invité à un salon du livre de Lima et que je me suis intéressé à cette occasion à la conquête espagnole. Et au retour, on m'a mis dans les mains un livre de Jared Diamond qui posait exactement cette question. Pourquoi est-ce que c'est Atahualpa qui est venu capturer Pourquoi est-ce que c'est Pizarro qui est venu capturer Charles Quint pourquoi est-ce que c'est Pizarro qui est venu capturer Atahualpa et pas Atahualpa qui est venu capturer Charles Quint? Et là, je me suis dit oui, pourquoi pas, j'avais mon idée de livre.
Et donc vous vous êtes renseigné sur Atahualpa, sur les Incas. Comment est-ce que vous avez procédé pour nourrir ce roman qui, encore une fois, est extrêmement érudit?
Oui, c'est-à-dire j'ai fait ce que j'aime faire, c'est-à-dire je me suis lancé dans une documentation qui m'a pris plusieurs années. J'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur la conquête et sur aussi sur l'Empire Inca qui a duré une petite moins d'une centaine d'années, mais bon, il y avait contrairement évidemment à toute l'historiographie qu'on peut avoir sur l'Europe du XVIe siècle, les documents étaient moindres, mais quand même ils existaient. Et donc voilà. Donc j'ai commencé d'abord par me renseigner sur les Incas, et puis ensuite, puisque c'était quand même le but du voyage, sur l'Europe du XVIe siècle, dont j'étais pas du tout un spécialiste à la base.
Dire des nouvelles. Sur RFI.
Avec l'écrivain Laurent Binet pour son roman Civilisation, paru chez Grasset, un roman que 5 d'entre vous pourront d'ailleurs gagner tout à l'heure en répondant en message privé à partir de notre page Facebook à la question que je vous poserai d'ici la fin de l'émission. Un roman que vous avez divisé en 4 parties, Laurent Binet, la plus massive étant la 3e, hein, les chroniques d'Atahualpa. Alors Atahualpa, justement, c'est le personnage principal, c'est l'Inca, c'est un personnage historique qui a donc réellement existé dans la vraie vie, dans l'histoire avec un grand H cette fois-ci, et c'est lui dont vous imaginez qu'il allait être le conquérant de l'Europe et pas la victime cette fois-ci. Donc il y a une vraie inversion. Et s'il quitte le Pérou avec les Quiténiens, les habitants de Quito, donc la capitale de l'Équateur en l'occurrence aujourd'hui, s'il quitte le Pérou, c'est qu'il a eu quelques ennuis avec son frère.
Oui, là encore, ça part d'une réalité historique qui est que lorsque Pizarro arrive au Pérou, il tombe sur un empire qui est puissant et qui comporte plusieurs millions d'habitants, mais il bénéficie d'un élément favorable qui est que l'empire est en pleine guerre civile. Deux frères se le disputent, Atahualpa et son frère Huascar, et donc j'ai repris ces éléments de départ pour imaginer que contrairement à la version historique, Atahualpa n'a pas le dessus sur Huascar avant d'être circonvenu par Pizarro, mais il perd et donc il remonte au nord dans le pays d'où il vient, c'est-à-dire en effet Quito, et puis poussé de plus en plus, il se retrouve à Cuba où là, dos au mur, il n'a plus qu'une seule possibilité de sortie, c'est l'Est.
Voilà, et à Cuba, il va rencontrer une princesse qui s'appelle Ige Namota, une princesse Taïno, donc du peuple des Taïnos, donc une princesse antillaise, c'est ça ?
Oui, une princesse haïtienne à l'origine, mais donc qui se retrouve à Cuba, qui est aussi une figure historique, c'est un bien grand mot, mais c'est surtout sa mère qui a été mentionnée par des chroniques
donc espagnoles. Elle existe, Guillemota.
Son nom est mentionné, on n'a aucun autre élément, on sait que on croit savoir qu'Ana Kaona, c'est le nom de sa mère, a eu une fille qui s'appelle Guillemota, et j'ai imaginé, pour faire le pont entre le moment Christophe Colomb, le moment où Christophe Colomb arrive à Cuba et finalement ne rentrera pas parce que les Indiens auxquels il va être confronté vont être beaucoup mieux équipés que prévu. J'ai imaginé que la petite fille qui était donc la Ige Namota apprend des bribes d'espagnol à ce moment-là, et 30 ans plus tard, elle voit arriver Atahualpa et veut participer au voyage qui va consister à aller à traverser l'Atlantique.
Et c'est vraiment un personnage très important pour le livre parce que c'est quelqu'un qui est très intelligente, qui connaît effectivement les mots, qui connaît les langues, c'est la traductrice, c'est l'interprète pour Atahualpa, c'est elle qui finalement lui permet petit à petit d'asseoir son pouvoir sur l'Europe.
Oui, c'est ce qu'on appelait un truchement au XVIe siècle. Son rôle est tout à fait déterminant et à vrai dire, il s'inspire d'un personnage historique réel qui a été la traductrice de Cortés, en fait, qui s'appelait la Malinche, qui était une esclave indienne que les Aztèques avaient offert en cadeau à Cortés et dont il va faire sa traductrice, sa maîtresse, qui sera la mère de l'un de ses fils d'ailleurs, et sa conseillère, et sans laquelle Cortés n'aurait jamais pu conquérir le Mexique, et qui est donc un personnage historique que je ne connaissais pas ou mal, qui m'a complètement fasciné, que j'aurais bien aimé réutiliser, mais là dans les dates, la situation dans laquelle j'ai mis les personnages de mon roman ne coïncidait pas, ne le permettait pas. Donc j'ai plus ou moins transféré ce personnage chez Ige Namota, qui était une enveloppe vide, puisque on n'avait aucun élément sur elle. Mais en tout état de cause, dans le processus de conquête d'un nouveau monde, la question de la traduction est évidemment primordiale. Et, la question, finalement, on en revient, c'est-à-dire la question du langage, forcément, est toujours quelque chose de décisif.
Alors, le cœur du livre, hein, c'est bien le regard d'Atahualpa sur l'Europe, qui devient donc le nouveau monde, dont les habitants sont les Levantins, autrement dit les gens du soleil levant, donc les gens de l'Est, puisque lui, il vient effectivement d'Amérique, donc de l'Ouest, puisqu'on se retrouve finalement à travers ce livre à adopter avec vous, avec l'écrivain que vous êtes, le point de vue inca sur l'Europe du XVIe siècle. Alors c'est très amusant parce que sous votre plume, les moutons deviennent de petits lamas blancs, le vin s'appelle le breuvage noir, les moines sont des tondus à cause de la tonsure, le Christ c'est le dieu cloué des Levantins. Comment est-ce que vous avez bâti justement ce lexique, ce vocabulaire très particulier? Comment est-ce que vous avez pu entrer dans la tête de ces Incas découvrant le continent européen?
Je me suis beaucoup basé sur les chroniques des conquistadors, en fait. Comment les conquistadors avaient découvert la civilisation aztèque, la civilisation inca. Et pour les conquistadors, les lamas étaient des espèces de grands moutons. Donc, il suffisait d'inverser le processus. Et puis, bon, en gros, c'est un principe que le principe, comment dire, de porter sur sa propre société un regard extérieur. Je me suis évidemment aussi inspiré de ce qu'avait fait Montaigne dans les chapitres de ses essais, les cannibales, des coches, et puis les lettres persanes de Montesquieu. C'est toujours un processus à la fois très amusant et très stimulant intellectuellement de prendre un peu de distance vis-à-vis de ce qui nous est familier et ce qui nous semble totalement évident. Pour problématiser ce qui est devenu trop familier et qu'on oublie de questionner au bout d'un moment.
Alors, il y a aussi quelques mots quechua qui parsèment votre texte, les waka, les amauta par exemple. Vous les utilisez, mais avec beaucoup de parcimonie quand même. Comment est-ce que vous avez trouvé le bon dosage?
Ouais, bah ça, c'est-à-dire, c'est une question de... C'est une question d'équilibre, donc c'est des mots que j'avais trouvés dans les chroniques de Inca Garcilaso de la Vega, enfin qui explique très bien comment fonctionnait la société Inca. Évidemment qu'il y avait une intention de donner une petite couleur locale au texte, mais en même temps il faut pas fatiguer le lecteur en saturant, il faut que l'ensemble reste lisible. Donc c'est vraiment une question de feeling. C'est-à-dire que moi je suis toujours mon premier lecteur. Si ça m'amuse, je le garde. Si ça me fatigue, je l'enlève.
Bon, on est en tout cas dans un vrai roman d'aventure, hein. Les péripéties sont extrêmement nombreuses. À chaque fois, vous êtes parti de vrais événements historiques en les tordant, en les inversant, une sorte d'effet miroir, ou bien vous les avez fait entrer dans votre propre logique narrative?
Oui, c'est-à-dire très exactement. Donc tout mon livre est construit selon le principe de l'effet papillon, hein, c'est-à-dire si une poignée de Vikings, les Vikings qui avaient fait cet aller-retour au Canada, qui sont mentionnés dans les sagas islandaises, et puis dont on retrouve maintenant des traces archéologiques. Et si une poignée de Vikings, au lieu de faire cet aller-retour, était descendue vers le sud et avait fourni aux Indiens ce qui leur avait manqué lorsqu'ils ont subi la conquête, à savoir le fer, le cheval et puis les anticorps pour résister aux chocs microbiens. À partir de là, je voulais ne modifier mon histoire que en fonction des données de mon hypothèse initiale. Donc je voulais tricher le moins possible, si vous voulez. Simplement, bon, il y avait un effet boule de neige, si vous voulez, c'est-à-dire que à partir du moment où Colomb ne rentre pas, alors ça entraîne un certain nombre de conséquences. À partir du moment où par exemple il y a un personnage qui apparaît dans mon livre, c'est Lorenzaccio de Musset, qui est une figure historique, Lorenzo de Médicis, qui avait, pas Laurent le Magnifique, mais un autre Lorenzo, qui avait tué le duc de Florence de l'époque. Et si Atahualpa a pris la place de Charles Quint, alors Charles Quint qui soutenait Alexandre de Médicis, alors Alexandre n'est plus soutenu, Atahualpa l'évince, donc Lorenzo n'a plus à tuer Alexandre de Médicis. Mais en même temps, je gardais pour ce personnage, je voulais garder sa fonction, son essence de régicide, et donc je me disais bon ben, il n'a plus à tuer Alexandre, mais alors qui est-ce qui peut tuer? Et donc voilà, je lui trouvais, je le réassignais d'une certaine manière, je réassignais mes personnages en fonction de ce que je savais d'eux et en fonction de ce que je savais de la réalité historique reconfigurée par l'engrenage dans lequel je m'étais mis, et j'avais mis mes incas qui avançaient.
Donc effet papillon, effet domino, donc une forme de logique, et donc même si c'est de l'invention, une forme de possibilité, de plausibilité, je sais pas si le mot existe, mais il fallait que tout ce que vous racontiez
soit plausible dans le contexte
de départ.
Tout à fait. Ouais.
Alors on va pas tous les citer, mais par exemple sur la question religieuse, il y a une sorte de Saint-Barthélemy à l'envers, hein, un massacre de catholiques qui se passe à Tolède en Espagne, il y a votre édit de Séville qui a des faux airs d'édit de Nantes, on joue comme ça en permanence, hein, nous lecteurs, entre votre roman et la réalité, il y a beaucoup de clins d'œil historiques, de clins d'œil littéraires. Il y a plusieurs niveaux de lecture finalement à ce roman. On peut l'apprécier quand on est un vrai spécialiste de la période. Comment intéresser ceux qui ne sont pas du tout Laurent Binet branchés sur cette époque?
Moi j'ai essayé de faire un roman d'aventure qui puisse aussi se lire comme un Alexandre Dumas ou si vous voulez, mais ça, je suis jamais trop inquiet de ça. Je me dis que, enfin, vous voyez, comme moi, quand je regarde Game of Thrones, je vois des allusions à Shakespeare sans arrêt, et je pense que c'est pas grave si on les voit pas. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que je pense qu'un bon texte ou toute bonne œuvre artistique à plusieurs niveaux, si vous voulez, et je pense en effet qu'elle doit fonctionner, qu'elle doit fonctionner à tous les niveaux. Alors j'espère que c'est le cas pour mon livre, mais si vous voulez, par exemple, la scène centrale de mon livre, qui est inspirée d'une scène réelle, c'est la capture d'Atahualpa par Pizarro. J'ai inversé le processus, et là, Pizarro a donné rendez-vous à Atahualpa, qui arrive avec une armée de 30 000 hommes. Il arrive sur une place dans une ville au Pérou qui s'appelle Caramarca, et là, il lui tend un guet-apens avec 180 Espagnols et il capture l'empereur. C'est vraiment une scène de western. Cette scène-là, je l'ai transposée donc à Salamanque. J'ai mis beaucoup de temps à trouver l'endroit où je voulais que ce soit, et c'était à, donc j'ai trouvé, quand j'ai vu Salamanque, ça m'a semblé parfait, même si la place a changé depuis, enfin bref. Et toute cette scène, je l'ai écrite en pensant à Sergio Leone, en ayant en tête de faire une belle scène de western.
Ah oui, donc il y a aussi le western, quoi. Il n'y a pas seulement effectivement le roman picaresque, il n'y a pas seulement le roman d'aventure, il n'y a pas seulement le roman historique, il n'y a pas seulement un peu du chronique, donc certains pourraient dire un peu de science-fiction inversée dans le passé. Vous n'avez pas envie de vous enfermer dans un genre, en fait. Tout est permis, à condition que ce soit vraisemblable.
Absolument. Bah, c'est-à-dire, je crois, vous savez, moi, ça fait longtemps qu'entre Racine et Shakespeare, j'ai choisi mon camp.
Oui.
Et à ce niveau-là, je suis plus donc côté anglais j'ai un peu moins dans le classicisme français je pense que l'une des forces des Anglais, les deux, si vous voulez, les deux positions sont d'une égale dignité, hein, si vous voulez. Mais je me sens plus baroque et je me sens plus dans le mélange des genres.
Nous sommes page 156 de votre roman, Laurent Binet.
Les Levantins croyaient en une famille de dieux composée d'un père, d'une mère et de leur fils. Le père vivait dans le ciel et avait envoyé son fils sur la terre pour sauver les hommes. Mais après de multiples aventures et une suite de malentendus, il l'avait laissé se faire clouer sur une croix par les hommes qu'il était venu aider et qu'il n'avait pas reconnus. Puis le fils était revenu du monde souterrain et avait rejoint son père au ciel. Depuis ce jour, dessillés et mortifiés par leur erreur, les Levantins attendaient et espéraient le retour du fils sur terre. En même temps, ils ne cessaient de prier et de vénérer la mère, qui avait la particularité étrange d'être restée pucelle lorsque le père l'avait fécondée. Il existait aussi une divinité secondaire, qu'ils appelaient le Saint-Esprit, et qui se confondait tantôt avec le père, tantôt avec le fils, tantôt avec les deux. Le signe de la main que les adeptes du culte chrétien faisaient à tout propos représentait la croix sur laquelle le fils avait été cloué. Ainsi, toutes leurs actions se prétendaient dictées par la volonté de réparer l'ingratitude que leurs ancêtres avaient montrée envers leur Dieu lorsqu'ils l'avaient torturé et cloué sur une croix de bois qu'ils avaient dressée au sommet d'une montagne dans un pays lointain d'où ils avaient été chassés mais qu'ils rêvaient de reconquérir. Toute la guerre avec les morts venait du fait que ceux-ci, bien qu'ayant connaissance de son existence, refusaient de faire allégeance au dieu cloué. Ils reconnaissaient le père, mais pas le fils. Ils avaient aussi des habitudes alimentaires différentes et une langue différente. Cela leur avait suffi, semble-t-il, à guerroyer sans merci pendant des centaines de récoltes. Une troisième tribu, les Juifs, quoique plus ancienne, avait des coutumes similaires à celles des morts. Par exemple, ils enlevaient un bout de peau du membre des bébés mâles, peu après la naissance de ceux-ci, refusaient de manger du cochon, ne consommaient de la viande que lorsque celle-ci avait été consacrée par leur prêtre et abattue selon certains rites. En revanche, ils pouvaient boire du breuvage noir, ce que les morts s'interdisaient. Ils ne pratiquaient pas non plus le culte du dieu cloué, qui avait pourtant jadis été l'un des leurs. Mais contrairement aux morts qui avaient été autorisés à rester après la défaite et l'exil de leur dernier roi, Boabdil, les Juifs, qui n'avaient ni roi ni royaume, avaient été brutalement chassés d'Espagne, à moins qu'ils n'eussent fait démonstration d'allégeance au dieu cloué et renoncé aux coutumes qui leur étaient propres. Ceux qui étaient restés à ce prix, qu'on appelait conversos, étaient maltraités et toujours suspectés de demeurer fidèles à leurs anciennes croyances. L'Inquisition les persécutait, allant même jusqu'à les brûler. Le tondu Loyola n'approuvait pas cette politique, pas plus que celle qu'il appelait la limpieza de sangre, la pureté du sang, qui rendait finalement impraticable le passage d'une tribu à l'autre. « Notre Seigneur Jésus n'est pas dans nos veines, disait-il, il est dans nos cœurs. »
Alors Laurent Binet, est-ce que c'est parce que vos héros arrivent au Portugal, est-ce parce que vous évoquez le tremblement de terre de Lisbonne et la scène de l'autodafé qui suit, mais on est obligé de penser, en vous lisant et en entendant cet extrait, à Voltaire, au Candide de Voltaire. Est-ce qu'il fait partie de vos sources d'inspiration pour ce roman ?
Bon, j'ai relu Voltaire, évidemment, pour ce passage à Lisbonne. Ceci dit, il faut savoir que je n'ai pas transposé, donc mes incas arrivent pendant un tremblement de terre et je n'ai pas transposé celui de Voltaire, ce qui aurait été anachronique, hein, c'est deux siècles plus tard. Il se trouve que, ça, j'étais très content quand je suis tombé sur cette information, le jour même, puisque je voulais, construire cette histoire en miroir. Donc je suivais quand même une forme de chronologie qui correspondait à la conquête des Espagnols. Et il se trouve que le jour même, où Pizarro a mis le pied au Pérou, figurez-vous, ce jour-là, il y a eu un tremblement de terre à Lisbonne dont on pense qu'il a été plus violent encore que celui dont parle Voltaire. Donc là je me suis dit que c'était vraiment une coïncidence formidable que je ne pouvais
pas,
laisser
passer.
Non, voilà, absolument. Et alors c'est presque trop, si vous voulez, c'est-à-dire là on se dit bon, quand même c'est un coup de chance incroyable, mais bon, c'est attesté historiquement, sachant que pour considérer comment Atahualpa allait pouvoir conquérir, enfin les chances de, pour mesurer les chances de succès d'Atahualpa, je me suis beaucoup fondé sur la conquête de Cortés et celle de Pizarro, et je dois dire qu'ils ont bénéficié de beaucoup de circonstances favorables, et parfois c'est juste, enfin, des coups de chance incroyables. Par exemple, le fait que les Aztèques attendaient le retour de leur dieu, le serpent à plumes, qui était parti sur la mer de l'Est et dont on attendait le retour. Et là, ils voient arriver Cortés avec son armure qui brille et une plume, enfin des plumes à son... Bon, tout le monde l'a pris pour un dieu. Bon, ça c'était des circonstances qui, dans un roman, nous sembleraient un peu incroyables, mais donc à chaque fois, j'ai cherché leur équivalent pour ce que pourraient être des coups de chance de cet ordre pour Atahualpa. Et j'en ai trouvé un que je trouvais aussi fantastique. C'est Atahualpa, le fils du soleil, qui arrive avec sa religion du soleil, arrive dans une Europe où Copernic est en train d'expliquer que ce n'est pas la Terre qui est au centre de l'univers, mais le soleil, c'est-à-dire une Europe qui commence à développer l'héliocentrisme. Et donc, je trouvais que c'était une équivalence formidable avec le serpent à plumes, le Cortés passant pour le dieu des Aztèques.
On entend là, à l'antenne de RFI, Laurent Binet, votre passion, votre enthousiasme pour ce roman, pour la vraie histoire et pour celle que vous nous racontez à partir de ces éléments réels. Est-ce qu'écrire pour vous est un jeu?
Ah bah, je pense que, spécialement avec le roman, je pense que le jeu est une des dimensions du roman. Je pense que
l'amusement aussi.
L'amusement, pas forcément. Bon, on peut écrire des histoires totalement tragiques, mais disons au niveau de la forme, le roman est propice à des expérimentations ludiques, si vous voulez. Je pense que voilà, c'est-à-dire historiquement, c'est quand même quelque chose de constitutif du roman, et je dois dire que Oui, c'est-à-dire enfin faire un. J'ai lu avec beaucoup de plaisir beaucoup de Balzac, mais faire un roman qui serait purement balzacien aujourd'hui aurait pas tellement d'intérêt, je pense, quoi.
Alors, Civilisation avec un Z, il se trouve que c'est aussi un jeu. Hein, c'est le titre de votre roman, c'est un jeu vidéo, un des plus connus d'ailleurs et pratiqué dans le monde, un jeu de stratégie dans lequel les joueurs ont près de 7000 ans pour construire une civilisation, également dans cette perspective uchronique, hein, et créer un empire, un jeu qui est un véritable phénomène mondial qui dure d'ailleurs maintenant depuis près de 30 ans. Stéphane Genest est allé pour nous à la rencontre d'un joueur.
Confortablement installé dans son salon où se mélangent, dans un désordre ordonné, des figurines de personnages de manga et des posters de jeux vidéo, Thomas, 33 ans, s'apprête à jouer à Civilization.
On lance le jeu.
Le jeune trentenaire a grandi avec ce jeu vidéo. La première fois qu'il y a touché, il avait 8 ans. L'objectif, conquérir le monde.
C'est un jeu de stratégie au tour par tour, dans lequel on incarne une civilisation, comme le nom l'indique. Et l'idée, c'est de dominer le monde, pas forcément militairement. Il y a plusieurs méthodes de victoire au bout de 500 tours. Donc on commence, je crois, en moins 4000 et on finit en 2080.
Pour ce faire, il faut choisir son chef de civilisation et paramétrer ses options de jeu.
On va partir sur Catherine de Médicis, qui est plutôt pratique pour une victoire culturelle en l'occurrence. On peut choisir la difficulté, donc ça va de très simple, quasiment impossible, divinité. On peut définir l'intensité des catastrophes naturelles auxquelles on veut être confronté, donc on va rester moyen. La taille de la carte, évidemment, le climat, est-ce qu'on veut qu'il soit chaud, polaire, les emplacements de départ. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui peuvent être paramétrés. Donc on lance la partie.
La vue du jeu est aérienne. Les villes, les montagnes ou encore les personnages sont modélisés en trois dimensions. Les illustrations s'approchent du cartoon et plus on zoome sur les bâtiments, plus on y voit les détails d'architecture. Pour conquérir le monde et faire prospérer son empire ainsi que sa civilisation, chaque décision que Thomas va prendre doit être mûrement réfléchie, d'autant qu'il peut être confronté à de nombreux aléas.
Là, on approche d'une tornade. C'est pas trop un problème en soi parce que ben, je vais pas envoyer mes unités dedans. Mais si j'avais une ville à proximité, ça pourrait être un peu dangereux. On continue l'exploration.
Qu'importe la tornade, pour Thomas, c'est une petite victoire qui vient de se jouer sur ce tour.
Our city continues to prosper. Already our people thrive and our population grows.
On a découvert la poterie. Ça permet de fabriquer des greniers, par exemple, ou une merveille qui s'appelle le grand bain. Et surtout, ça permet de construire des fermes. Et ça va être très intéressant quand on aura notre premier bâtisseur. Donc là, on a fait un saut dans le temps, on est en 1838, donc on est à l'ère atomique et il y a plein de choses différentes. Le monde s'est étendu, on a découvert le reste du monde, on a envoyé des explorateurs, on a rencontré d'autres civilisations, peut-être qu'on en a tapé quelques-unes au passage. Donc là, j'ai Lautaro des Mapuches qui me propose un accord. Il se trouve que j'ai l'exemplaire de l'Iliade dans une de mes villes. Il aimerait bien l'acquérir, sauf que moi, mon objectif, c'est de devenir une civilisation culturelle, donc... Non, je vais refuser son accord.
Si Civilisation se veut réaliste, il y a parfois quelques incohérences historiques et scientifiques, mais qu'importe, cela fait partie du concept. Thomas, comme beaucoup de joueurs, s'en amuse.
On a lancé la recherche pour les fusées, on va tenter d'atteindre Alpha du Centaure d'ici la moitié du XXe siècle, je pense que c'est un objectif raisonnable. Beethoven sera toujours français et j'aurai toujours du Rembrandt dans mon musée.
Corentin Lamy est journaliste au Monde et spécialiste des jeux vidéo. Il distingue la civilisation que l'on crée et l'empire qui en découle.
Civilisation, ça parle moins de civilisation que d'empire en fait. C'est pas tellement qu'est-ce que ma civilisation va laisser derrière moi, c'est plutôt comment je vais pouvoir conquérir le monde et envoyer des navets dans l'espace pour dire l'espace aussi est à moi. Dans tous les cas, il n'y avait pas de solution autre que le monde m'appartient.
Sur Civilisation, aucun empire ne se ressemble. Depuis la sortie du jeu en 1991, c'est un succès mondial. Pour preuve, la dernière version de Civilisation s'est vendue à près de 10 millions d'exemplaires.
Ouais, on souhaite la même chose à Civilisation. Votre livre, Laurent Binet, c'était Stéphane Genest hein, qui signe ce reportage. Vous avez déjà joué
Oui, j'ai joué plus jeune. Et bon, heureusement, je m'en suis sorti parce que c'est extrêmement chronophage et que, bon, en général, on y passe des nuits entières. Oui, j'y ai joué. Voilà, ça m'amusait de mettre mon livre sous le... Bon, d'une part, enfin, j'aime bien la culture, ce qu'on appelle la culture pop, hein, et j'aime bien mélanger les références références classiques et les références plus, geek, si on peut dire. Enfin, bon, je suis, enfin, c'est-à-dire, j'ai joué, j'ai été joueur. Et vous avez vu, le principe du jeu est assez proche finalement de la situation dans laquelle je mets mes incas. Et ce qui est intéressant, en effet, c'est qu'il s'agit pas juste de conquête militaire, mais que ça se joue à beaucoup de niveaux. Il y a des niveaux politiques, des niveaux idéologiques, des niveaux technologiques. C'est-à-dire, ce qui est intéressant aussi avec ce jeu, c'est que c'est très bien informé historiquement, en même temps que ça donne une liberté infinie. Et donc voilà, donc c'était aussi sous cette égide là que j'avais envie de mettre mon livre.
Mais alors, vous avez effectivement varié les formes, parce que vous parliez de liberté à l'instant, Laurent Binet. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous vous êtes accordé quand même beaucoup de liberté, puisque vous avez écrit une parodie des 95 thèses de Luther, qui deviennent les 95 thèses du soleil, puisque l'Inca c'est le soleil. Il y a les Incades, hein, donc des passages en vers. Il y a des échanges de lettres entre deux grande figure de la pensée européenne de l'époque, Erasme et Thomas More. Vous avez aussi inventé le journal de Christophe Colomb. Le livre commence par un pastiche de saga islandaise. Tout était permis aussi au niveau de la forme, peut-être même surtout au niveau de la forme.
Oui, mais à condition que ce soit ancré dans des sources historiques précises. Et j'ai beaucoup travaillé la correspondance entre Thomas More et Erasme, qui part de véritables correspondances. Et autant que je pouvais, je récupérais des éléments de formules, de formulations qui donnent cette couleur de l'humanisme du XVIe siècle. Le journal de Christophe Colomb, c'était aussi très amusant à faire, c'est-à-dire que les premières pages sont un montage de citations du réel journal jusqu'à ce que ça bifurque. C'est-à-dire qu'au début, dans mon histoire, Christophe Colomb arrive, découvre Cuba exactement dans les conditions qui ont été les siennes à l'époque et selon ses propres mots. Et puis, progressivement, j'introduis un élément des grains de sable dans l'engrenage et ça bifurque. Mais le ton, autant que faire se peut, autant à mesure de mes moyens, j'ai gardé le même ton.
Alors le ton littéraire et aussi des images qui arrivent, parce que vous avez une écriture qui est aussi très très visuelle, qu'on a presque l'impression. Pas presque d'ailleurs, on a l'impression à de multiples reprises qu'on est dans un film, là, qu'on est dans une saga, qu'on est dans une série télévisée. Vous avez ça en tête, Laurent Binet, en écrivant?
Mais j'ai ça en tête. Non, j'ai ça en tête fatalement. C'est-à-dire, j'ai pas ça en tête comme un objectif post-livre, mais je suis aussi nourri.
Mais vous imaginez vos scènes, vous avez les visages d'acteurs que vous appréciez,
non, pas,
par exemple, dans le rôle d'Atahualpa, ou
pas les visages d'acteurs. Mais disons, mon écriture, elle est nourrie d'audiovisuel, elle est nourrie de films, elle est nourrie de séries. Et donc c'est vrai que je pense beaucoup aussi en tableau, c'est-à-dire, je vous parlais de Sergio Leone tout à l'heure, la grande rencontre à Salamanque entre les Incas embusqués et puis l'armée de Charles Quint qui arrive avec son apparat, ses armures qui brillent, etc., et le prêtre qui s'avance devant la princesse nue et qui lui tend la Bible, et la princesse qui prend la Bible et qui dit Fiat Lux, qui laisse tomber la Bible par terre, et c'est le signal de l'attaque. C'est des réflexes de mise en scène, si vous voulez, des réflexes de théâtre, des réflexes de... Et puis voilà, c'est-à-dire je vois la poussière, j'entends un peu une musique d'Ennio Morricone quand même dans ma tête.
Vous rêvez d'une adaptation du livre en film ou en série? Ça va coûter un petit peu cher quand même, parce que bon,
c'est ce que me disent tous les producteurs que je rencontre. Là, il y a des producteurs qui se manifestent, ouais. Tous me parlent de série plus que de film, hein, donc vraiment c'est maintenant c'est le format qui a l'air, enfin disons la question a l'air de même pas se poser. Je serais très curieux évidemment de voir une adaptation en série, oui.
La première Estercada du compositeur espagnol du XVIe siècle Diego Ortiz, interprétée ici par le Flanders Recorder Quartet dans VMDN sur RFI, avec Laurent Binet pour son roman Civilisation paru chez Grasset, un roman dans lequel on plonge sinon dans la véritable histoire politique du XVIe siècle, puisqu'il s'agit d'une uchronie, mais en tout cas dans la culture européenne de l'époque, la peinture, la littérature, la philosophie, les idées sont vraiment extrêmement présentes dans votre narration. Laurent Binet, est-ce que ce livre, c'est aussi sinon un témoignage, du moins un hommage à la culture européenne?
Disons fatalement, à partir du moment où, c'est-à-dire c'est quand même l'époque de la Renaissance, c'est une époque trouble, mais c'est quand même une époque très riche. Et c'est vrai que j'avais pas envie de me priver de personnages comme le Titien ou comme d'autres peintres, enfin que le Titien qui apparaît. Il se trouve que le Titien avait été le peintre officiel de Charles Quint, donc il avait sa place en tant que personnage. Je peux pas dire le contraire. C'est-à-dire j'ai eu envie de raconter quand même ce qui a prévalu au roman, c'est quand même une idée de revanche des vaincus, c'est-à-dire donner leur chance aux Indiens, et toute ma sympathie va à Atahualpa, mais en même temps, je souhaite pas du tout nier le génie artistique de l'Europe à cette époque précisément.
Ouais. Oui, mais c'est même Titien peint le portrait d'Atahualpa, hein, dans le livre. On croise le Gréco, on croise Montaigne, on croise Cervantes dans la dernière partie du roman, et puis il y a Machiavel. Alors Machiavel, il n'est pas là physiquement parce qu'il est mort déjà avant, quand même. Voilà. Mais les écrits de Machiavel, les écrits du prince, en l'occurrence, ont aussi inspiré les Incas. C'est-à-dire, on a un peu l'impression que les récits, les idées politiques européennes impressionne et même façonne la pensée de vos héros amérindiens.
Mais c'est-à-dire européen ou pas européen, Machiavel, c'est quand même un bréviaire utile quand vous avez des velléités de conquête politique. Ensuite, si votre question c'est que
Parce que là on n'est plus dans le renversement là, c'est-à-dire que effectivement dans la vraie histoire les idées européennes ont essaimé sur l'ensemble de la planète, c'est aussi le cas dans votre roman même si lui est inversé.
Oui, c'est vrai, mais alors ensuite à partir du moment où je ne veux inventer que en fonction des données initiales de mon hypothèse, je n'aurais pas voulu inventer un Machiavel Inca, par exemple. Et s'il y en a eu un, on n'en a pas trace. Donc j'étais quand même, de toute façon, j'avais un peu les mains liées par la question des sources. Les Incas n'avaient pas l'écriture, ou en tout cas, ils avaient ces quipus dont on pense qu'ils servaient à compter, peut-être à faire passer des messages, mais en tout cas, on les a pas décodés. Donc
ils sont impressionnés quand ils arrivent en Europe, par l'imprimerie en particulier.
Oui, puisqu'ils appellent ça les feuilles qui parlent, qui est quelque chose qui a été rapporté par un conquistador. Faut dire que c'est pas une mauvaise invention.
Certes non. La preuve, sinon vous seriez pas avec nous en direct sur RFI aujourd'hui. En même temps, le robinet, Atahualpa, dans l'Europe, c'est aussi une figure de la tolérance religieuse. C'est presque une forme de... C'est presque l'Europe des Lumières avec deux siècles d'avance, quoi, d'une certaine façon. Il y a une ouverture d'esprit qui finalement manque un peu à l'Europe de cette époque.
C'est-à-dire oui et non, parce que en effet, je fais signer à Atahualpa cet édit de Séville qui est une préfiguration de l'édit de Nantes. Mais c'est une préfiguration de l'édit de Nantes, c'est-à-dire qu'à l'époque, les monarques n'avaient pas intérêt au désordre religieux et cherchaient la paix religieuse. À partir du moment où Atahualpa prend la place de Charles Quint, il fait ce que Charles Quint essayait de faire, mais ce que Charles Quint finalement a partiellement accompli avec la paix d'Augsbourg, je crois, en 1555, et ce que Henri IV... C'est-à-dire que j'avais pas dans l'idée de faire une opposition, et surtout pas une opposition morale, entre les gentils indiens, si vous voulez, et les méchants européens. C'est-à-dire que ce qui dicte le comportement d'Atahualpa, c'est plutôt le Machiavel que Erasme, si vous voulez. Il se trouve que comment faire pour renverser un pouvoir en place? On s'allie aux populations opprimées. C'est comme ça que Cortés a procédé. Bon, donc il se trouve que par machiavélisme, si vous voulez, Atahualpa va aider les Juifs, va aider les Morisques, va aider les paysans révoltés en Allemagne pour mieux
asseoir son pouvoir,
subvertir, quoi. Oui, renverser le pouvoir en place qui opprimait ces populations. Donc, si vous voulez, à l'arrivée, en effet, le comportement d'Atahualpa est celui d'un souverain qui vient en aide aux faibles, mais pour des motifs tout à fait stratégiques.
Vous avez vu, Laurent Binet, la polémique récente autour de l'expression « défense du mode de vie européen » pour désigner le portefeuille d'un nouveau commissaire européen au sein de la Commission de Bruxelles. Est-ce que pour vous, Laurent Binet, il y a une civilisation européenne?
C'est-à-dire, plus on me pose la question à propos de mon livre et de l'Europe du XVIe siècle, et plus je suis quand même circonspect et sceptique, parce que voilà, quelqu'un m'a dit « Oui, mais finalement, c'est les Européens qui apportent dans votre histoire, c'est les Européens qui apportent ce qui leur manque aux Indiens, puisque c'est les Vikings. » Bon, le point commun entre les Vikings en l'an 1000 et puis des gens d'Europe du Sud, d'Italie, de côté de Byzance, etc., me paraît quand même très très ténu. Alors oui, à partir du moment où il y a des échanges, il y a des points communs. Bon, c'est-à-dire on voit bien comment même aujourd'hui il y a des liens, mais il n'y a pas de, disons. Alors, l'identité, de toute façon, est un mot piégé aujourd'hui. Mmh. En tout cas, moi, je ne crois pas à l'essence des peuples. Et on m'a aussi fait cette remarque. On m'a dit, oui, mais finalement, alors, Atahualpa se comporte comme un conquérant, alors que l'essence de la conquête, c'est quand même l'Europe, etc., etc. Mais non, les Incas, les Aztèques ont été des civilisations extrêmement conquérantes, très, très impérialistes. Et donc, voilà, c'est-à-dire ce qu'on considère comme le génie européen, pour le meilleur et pour le pire, je pense que c'est une illusion totale.
Dernière question, Laurent Binet, le livre va sortir en espagnol, il va sortir au Pérou, vous allez le présenter là-bas.
L'éditeur espagnol là, qui s'occupe aussi de l'Amérique latine a l'air très très excité, et donc je pense que oui, je vais être invité en Amérique du Sud.
Ouais. Voilà, merci beaucoup Laurent Binet. Civilisation, votre nouveau roman est donc sorti chez Grasset, un livre que 5 de nos auditeurs vont donc pouvoir gagner à présent en répondant comme d'habitude en message privé, j'insiste, à partir de la page Facebook de l'émission à la question du jour. Alors écoutez bien, lorsqu'ils arrivent en Europe, Atahualpa et les siens sont très étonnés par les crucifix et le christianisme, mais comment appellent-ils les moines? On l'a dit tout à l'heure et on l'a entendu d'ailleurs dans l'extrait du livre. À vos claviers et que les meilleurs gagnent. Tagada Jones sur RFI, Narcissique. Bonjour Alain Pilou.
Bonjour Jean-François et bonjour Laurent Binet, à qui on ne cache rien en musique.
Alors Tagada Jones, alors avant toute chose, ça mérite peut-être quelques explications, d'où vient ce nom?
Rien à voir avec les fameux bonbons saveur fraise, ce sont juste les tagadas du rythme de la guitare qu'ils ont voulu symboliser. Quant au Jones, il n'y a pas d'explication.
Bon, peut-être un petit clin d'œil à Indiana Jones, dont le petit Laurent Binet était, paraît-il, friand, d'après ce que j'ai lu. Bon, bref, en tout cas, l'actualité de Tagada Jones, c'est un dernier album en date, La Peste et le Choléra, et c'est aussi une tournée.
Celle du Rush Tour, à l'occasion des 25 ans du groupe, qui passe par le Zénith de Paris le 2 novembre, et affiche complet, fait assez rare pour un plateau de rock et métal, où l'on croisera aussi Ultra Vomit et No One is Innocent, que Laurent apprécie particulièrement. Comment Nico, le chanteur de Tagada Jones, et patron de Rage Production, explique-t-il un emballement d'une telle ampleur?
Il y a un engouement, je pense, qui est lié vraiment aux artistes qui chantent en français. Un retour un petit peu de pas mal de jeunes. Peut-être, je ne sais pas l'expliquer, si peut-être il y a un ras-le-bol à un moment des musiques urbaines ou des gens qui ont envie d'écouter autre chose. Mais en tout cas, il y a un retour des plus jeunes, notamment. C'est vraiment les plus jeunes. Hein. C'est une tranche d'âge plutôt de 14 à 20 ans qui se retrouvent beaucoup dans les artistes un peu rock, dur, engagé, et qui chante en français. Donc tant mieux, hein, moi j'ai dit tant mieux pour nous.
Tagada Jones, souvent parti jouer hors de l'Hexagone, ils ne sont pas encore allés conquérir les Espagnols, mais se sont déjà produits au Japon à plusieurs reprises, ou pour citer un extrait de leur texte, chez Mère Russie, qui finance les nazis. Du coup, comment était-ce, Nikovic?
Alors, la Russie, c'est très bon. On jouait dans un groupe avec un groupe punk en fait russe qui depuis est interdit. Donc effectivement, on n'était pas du tout dans un cadre pro-Poutine. Donc c'est même le chanteur maintenant n'habite plus en Russie. Enfin voilà, il a été expulsé. Enfin expulsé. Non, c'est pas ça. C'est qu'il peut plus retourner en Russie. Donc c'était qu'on était dans un cas très particulier. On a eu un retour aussi un petit peu comme le Japon, le fait d'arriver dans ce cadre très spécifique, un retour très très fort, parce que le public de ce groupe-là nous a tout de suite accepté les bras ouverts, puisqu'on était dans un cadre bien particulier. Et c'est vrai qu'on a joué, grâce au groupe Tête d'Affiche, hein, qui s'appelle Tarakani, que dans des salles complètes, entre 1000 et 2500 personnes. Et le public a été incroyable. Nous, on jouait, on a l'impression d'être des stars russes, quoi, hein. C'était complètement fou. Les gens, ils sautaient partout, ils dansaient partout, ils comprenaient forcément rien de ce qu'on disait. Ils nous donnaient l'impression de connaître nos titres presque comme des Français. Sauf qu'il n'y avait pas le labial, évidemment, mais c'était quand même assez incroyable. Et là, par exemple, je peux donner cette image-là. C'est vraiment l'énergie de notre musique que ces gens-là ont ressenti. C'est la même chose en Allemagne, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas un mot de ce qu'on raconte, mais l'énergie, elle transperce toutes les langues. Et là, il n'y a plus besoin, il n'y a aucune barrière. En fait.
Le monde tourne à l'envers. Tagada Jones dans VMDN sur RFI. Alors, que diriez-vous de leur style musical, Alain ?
Il oscille, Jean-François, entre punk, metal et rock français, sans vraiment vouloir se donner de carcan. Tagada Jones va chercher un peu dans tous les riffs et les paysages. Ils ont même des touches électro. Justement, en musique, pour reprendre l'intitulé de leur disque, quelle serait la peste et le choléra, selon eux ?
Oh, c'est dur. Aujourd'hui, moi... ça c'est très personnel parce que c'est une musique qui ne me touche pas du tout. Je pourrais dire que les Booba et compagnie et tout ça, c'est toute cette musique, elle me touche pas du tout. Voilà, je trouve que il y a une espèce de côté malsain dans de cette mode du gangster rap un peu où on joue les durs où on monte que des armes. Après c'est tellement à l'antithèse de mes valeurs personnelles. Je trouve que je pourrais prendre n'importe quel artiste de ces veines-là, je les mettrais dans la peste et le choléra. Mais je pense que c'est très personnel. Puis en plus, je les prends parce que c'est des artistes hyper à la mode. Donc c'est une question de génération. Moi, je trouve que je préférais le rap conscient que le rap violent, c'est sûr. Tu n'es pas dans l'extrême, ni dans le radical. Impossible de vivre sans un gilet pare-balles. Tu choisis un exil.
La peste et le choléra, Tagada Jones en concert, entre autres le 26 octobre à Célesta en Alsace dans le cadre du festival Rock Your Brain, le 31 à Rethel dans les Ardennes à l'Atmosphère, le 2 novembre au Zénith de Paris, le 8 à Grenoble à l'Heure Bleue et le 9 à Châteaugiron en Bretagne pour le Castle Rock Fest. Merci Alain, dans un instant le journal, on se retrouve demain avec une biographie dessinée de René Goscinny signée Catel avec le concours de la fille de ce grand scénariste créateur entre autres d'Astérix évidemment. Avec Uderzo, Anne Goscinny. Cette biographie est intitulée Le roman des Goscinny, naissance d'un Gaulois, et elle est également éditée chez Grasset. Vous m'en direz des nouvelles.